Connaissez-vous la fable de Jean de la Fontaine, le chêne et le roseau ? Le chêne prétentieux et sûr de sa force, qui se moque du frêle roseau et qui lui dit « Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête » et de conclure « La nature envers vous me semble bien injuste. » Et le roseau ne se laisse pas démonter et explique au chêne qu'il plie, mais ne se rompt pas. Arrive alors la tempête, violente, terrible, destructrice. Et sous l'effet de la tempête, l'arbre royal est déraciné, alors que le roseau résiste et tient ferme. Les chrétiens passent par des tempêtes qui peuvent être terribles. Et c'est ce que vivent bon nombre de nos frères et sœurs en Christ qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus. Les vents qui les assaillent sont souvent forts et la pression est là pour qu'ils renoncent à leur foi. Les autorités, la police, leurs collègues, mais leur famille même parfois, les voisins, etc., vont exercer des pressions quasi quotidiennes, parfois violentes. Une fois n'est pas coutume, je nous invite ce matin à nous inscrire dans ce qu'on appelle le dimanche de l'Église persécutée, qui a lieu précisément aujourd'hui et qui est relayé par l'association Portes Ouvertes, qui se veut justement au service de l'Église persécutée, des chrétiens persécutés, l'association Portes Ouvertes qui fête ses 70 ans cette année, donc depuis 1955, avec notamment le travail à l'origine et pendant longtemps de frère André, qui est décédé il y a 3 années maintenant, un missionnaire néerlandais. À cette occasion des 70 ans, Portes Ouvertes a choisi ce texte biblique de 1 Samuel 7, verset 12, pour rappeler la fidélité de Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ça nous rappelle quelque chose, puisque le mois dernier, pour les 130 ans de notre Église, nous avions aussi choisi ce texte comme filigrane. Et on le retrouve encore avec ce tableau à l'entrée, Ebenezer, hein, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, la pierre du souvenir. Alors, quelques mots pour présenter rapidement, vraiment très rapidement, je vous inviterai à aller sur le site internet de Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, c'est 1400 collaborateurs dans le monde, avec des actions dans plus de 70 pays. Portes Ouvertes distribue chaque année des centaines de milliers de Bibles, de livres chrétiens, elle fournit une aide humanitaire. Elle fournit aussi du soutien au développement communautaire, elle propose aussi des accompagnements, des conseils suite à des traumatismes que peuvent vivre les chrétiens qui sont persécutés. Et puis, Portes Ouvertes est aussi très connue par cet index mondial de persécution qui sort tous les ans au mois de janvier et qui recense les 50 pays où la foi chrétienne est le plus persécutée. Alors, ça ne se limite pas à 50 pays, il y en a pas loin de 80 pays où les chrétiens sont exposés à des persécutions, à des discriminations. Mais en tout cas, cette carte dresse les 50 pays qui sont les plus impactés par la persécution. Et pour donner une statistique générale, ce sont plus de 380 millions de chrétiens dans le monde qui vivent dans des pays où les niveaux de persécution sont vraiment élevés. Ça correspond à 1 chrétien sur 7 à l'échelle de la planète. Et sur ces 1 chrétien sur 7, sur ces 380 millions de chrétiens, eh bien, il y en a 2 sur 5 qui vivent en Asie, 1 sur 5 qui vit en Afrique et 1 sur 16 qui vit en Amérique latine. Alors, il y a beaucoup d'autres statistiques et je vous invite à aller sur le site de Portes Ouvertes pour prendre un peu plus connaissance de ce qui se passe sur le terrain. On parle de persécution, mais qu'est-ce qu'on entend par persécution ? Portes Ouvertes définit la persécution des chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Et cette hostilité, elle peut être distinguée en deux catégories différentes. Deux types de persécution, on pourrait dire. On a tout d'abord la persécution marteau. Elle consiste en une violence qui est physique, qui est matérielle, qui est soudaine, souvent brutale. Des enlèvements, des passages à tabac, des meurtres, des assassinats, des viols, des mariages forcés, des églises incendiées et j'en passe. C'est un petit peu, pour reprendre cette image ici, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la partie qu'on voit le plus, c'est la partie qui est peut-être la plus choquante, c'est aussi celle qui est la plus chiffrable. Voilà, on peut compter le nombre de chrétiens en prison, on peut compter le nombre d'églises incendiées, etc. C'est aussi la partie qui est la plus relayée dans les médias, quand elle est relayée. Et à côté de cette persécution marteau, il y a la persécution étau, représentée ici par une petite pince parce que je n'ai pas trouvé d'étau. Mais la persécution étau, qui est moins visible, qui a souvent un impact durable et néfaste. C'est une discrimination qui est faite de rejet, d'exclusion, d'oppression discrète, sournoise, de déni des droits, de procès injustes, etc. Elle finit par ostraciser les chrétiens en touchant tous les domaines de leur vie. Et bah, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est celle qu'on voit le moins, c'est celle qui est difficilement chiffrable, mesurable, quantifiable, mais elle fait pourtant très mal. L'association Portes Ouvertes relaye semaine après semaine, avec le fil rouge, mois après mois, année après année, avec notamment l'index mondial de persécution des chrétiens, etc., des informations de ce qui se passe sur le terrain, des sujets de prière. Et quand on lit tous ces sujets de prière, on voit bien souvent la situation est négative, il se passe beaucoup de choses difficiles, et en même temps, on voit régulièrement, dans les actualités au sujet des chrétiens persécutés, on voit des exaucements de prière. Pour toutes les prières que les chrétiens dans le monde entier, persécutés ou non, adressent à Dieu pour telle ou telle situation, comme pas plus tard que cette semaine, avec le fil rouge qui est sorti mercredi passé, où on apprenait qu'un pasteur en Malaisie a été reconnu victime d'une injustice, grave injustice, et que le gouvernement malaisien est contraint de maintenant lui verser, en tout cas à sa famille, un dédommagement. Et c'est manifestement une réponse de Dieu à 8 ans de prière, de combat judiciaire, etc., pour que la vérité soit faite. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait noter, qui sont peut-être plus généraux, ceux-là, à l'échelle d'un pays. Si je reprends la carte de l'index mondial de persécution des chrétiens, un exemple, ce qui se passe en Iran. L'Iran, c'est un pays qui occupe la 9e place dans l'index mondial de persécution en 2025. C'est une république islamique. Les chrétiens y sont persécutés par le gouvernement qui considère qu'ils sont sous une influence de l'Occident, que ce sont même des agents de l'Occident. La vie ecclésiale, elle est complètement muselée par les autorités en Iran. Et ce sont d'ailleurs les chrétiens d'origine musulmane qui sont le plus persécutés, qui sont obligés de se réunir en secret et s'ils sont découverts, ils sont arrêtés et emprisonnés. Et pourtant, dans ce contexte, dans ce climat-là, l'Église en Iran continue de grandir et fait même partie des pays où la foi, où l'Évangile grandit le plus dans le monde. Un autre exemple, en Inde. L'Inde, ici, 11e place dans l'index mondial de persécution. Les chrétiens, ici, sont victimes du nationalisme religieux avec un parti hindou radical au pouvoir. Et pourtant, là aussi, l'Église grandit. Dans un pays de 1,4 milliard d'habitants, on dénombre 73 millions de chrétiens. Et en quelques années seulement, on est passé de 53 à 73 millions de chrétiens. En quelques années, 5 ans, 6 ans. L'Iran, l'Inde, et on pourrait citer d'autres pays, où malgré la persécution, l'Évangile est annoncé, proclamé, et l'Église grandit. Et donc au sein d'une terrible réalité, eh bien, Dieu manifeste sa grâce et sa fidélité devant des situations qui sont humainement insoutenables. Et c'est avec tout cela en tête que je vous invite à lire dans 2 Corinthiens, on va lire tout le chapitre 4, donc les versets 1 à 18. Vous verrez que on n'a pas fait exprès avec Sigère, hein, mais je lui ai juste demandé son thème. Et puis, bon, ben voilà, le Seigneur conduit. Vous verrez que ce ne sera pas sans lien avec ce que Sigère nous a partagé dans la première partie de ce culte. 2 Corinthiens, chapitre 4, j'affiche le texte ici dans la Bible de la Colombe. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais, en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous croyons et c'est aussi pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. L'apôtre Paul ici nous parle de ces pressions que subissaient également les premiers chrétiens. La persécution des chrétiens, elle n'a pas 100 ans ou 50 ans, elle a toujours existé. Et il est peut-être même sans doute l'un des mieux placés pour en parler. Lui qui a d'abord été parmi les premiers à persécuter l'Église et qui s'est converti et qui est passé de persécuteur à persécuter à son tour. Et ce, jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qui a permis à l'apôtre Paul hier et aux chrétiens persécutés aujourd'hui, de tenir bon malgré toutes les pressions exercées contre eux. Ils sont pressés de toute manière, mais non écrasés, comme on l'a lu dans le verset 8. Pourquoi sommes-nous pressés de toute manière? Premièrement, parce que nous détenons un trésor. L'apôtre Paul dit dans le verset 7 que je relis, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Paul considérait que l'évangile de la gloire du Christ est un trésor bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. On peut lire par exemple dans Philippiens 3, verset 8, « Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. Est-ce que nous en sommes autant convaincus que l'apôtre Paul, il y a 2000 ans ? Selon la définition du dictionnaire, un trésor, c'est un ensemble de choses de valeur qui sont accumulées et aussi souvent soigneusement cachées. Eh bien, c'est tout l'inverse de ce que Dieu veut que nous fassions de ce trésor qu'il a déposé dans notre cœur, en nous. En règle générale, un trésor, c'est quelque chose qui attise, la convoitise, la curiosité. On a envie de voir le trésor. Mais on le sait, ce trésor-là, qui est la bonne nouvelle de Jésus, elle n'attire pas systématiquement les foules. On peut même dire que dans certains pays, comme dans les pays où la foi chrétienne est persécutée, ce trésor attire la haine. Et la foi de bon nombre de chrétiens persécutés est ferme. Malgré les souffrances et les risques encourus, ils sont prêts à tout pour faire rayonner la lumière de Jésus-Christ, pour témoigner de Jésus, voire même pour continuer à témoigner de Jésus après qu'ils aient été muselés, après qu'ils soient passés par un temps en prison, après qu'ils aient vu leur église incendiée ou que sais-je. Eh bien, ils continuent de témoigner. Même ici, en France, en Occident, l'Évangile dérange. Il gêne les incrédules. Et par-dessus tout, où qu'on soit sur la surface de la terre, l'Évangile gêne le diable. Le diable déteste ce trésor, car il sait combien il est précieux pour nous ouvrir les yeux et nous ouvrir l'intelligence. Le diable fera tout pour empêcher les êtres humains de découvrir ou de garder ce trésor en eux. C'est une lutte qui ne prendra fin qu'au retour de Jésus. Au verset 4 de notre texte, l'apôtre Paul dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. » Le diable se sert de l'incrédulité de l'être humain pour lui fermer la porte de la connaissance. Alors ça nous remet en question, qu'est-ce qu'on doit faire nous ? Nous qui avons cet évangile en nous, parce que Dieu l'a placé en nous. Que devons-nous faire ? Nous taire ? Cacher ce trésor ? Ou bien, comme l'apôtre Paul au verset 13 qui dit, en citant ce texte de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, eh bien nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. » De l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. Au verset 6, l'apôtre Paul nous dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. » S'il y a de la lumière dans notre cœur, alors il y en aura autour de nous pour témoigner de la gloire de Dieu. Ça va rejaillir, ça doit rejaillir. Parfois, nous avons peur et nous sommes tentés d'enterrer le trésor de l'Évangile. Mais rappelons-nous ce que Jésus lui-même a dit dans le Sermon sur la montagne. Dans ce discours, ce célèbre discours, Matthieu chapitre 5, versets 14 et suivants. « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Pourquoi sommes-nous pressés de toute manière? Parce que, premièrement, nous détenons un trésor. Et puis, deuxièmement, parce que nous sommes fragiles. Je relis le verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Nous portons ce trésor dans des vases de terre, des vases faits de terre, d'argile. Et Paul ici établit un contraste entre le trésor et puis le vase de terre qui le contient. L'être humain est créature de Dieu, mais il est formé de la terre, il est poussière du sol, il est comparé à un vase. Un vase, c'est fragile. Le messager est fragile, mais il est porteur d'un message de grande valeur. Beaucoup de chrétiens sont persécutés, sont confrontés à la peur de se réunir, la peur d'exercer même leur piété, la lecture de la Bible, la prière, en particulier quand c'est en communauté, la peur d'annoncer l'Évangile, et c'est normal. Ils sont tous, nous sommes tous, des vases de terre. Fragile, sans valeur aux yeux du monde, mais précieux aux yeux de Dieu. Dieu nous envoie dans le monde pour répandre sa lumière, pour répandre son évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un hasard si Dieu place sa gloire dans des vases sans gloire. De cette manière, la puissance incomparable que produit l'Évangile est celle de Dieu et non pas la nôtre. Plus la faiblesse du témoin est manifeste et plus la puissance de Dieu est éclatante. Nous sommes donc fragiles. Et ça, le diable le sait. Pourquoi sommes-nous pressés de toute manière? Parce que nous détenons un trésor, parce que nous sommes fragiles. Et c'est un fait, le chrétien peut être amené à vivre bien des tempêtes dans cette vie-ci, tel un roseau qui ploie sous l'effet du vent, sous l'effet des épreuves. Mais pour autant, le chrétien ne rompt pas, ne se rompt pas, comme le chêne de la fable de Jean de La Fontaine. Alors, pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? Et c'est la deuxième question que nous posons. Premièrement, parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait la persécution. Il connaissait l'abattement. Il l'a vécu des deux côtés. Pourtant, il n'y avait pas de désespoir en lui parce que son soutien lui venait de Dieu lui-même. Tout vase dépend du potier qui le tient entre ses mains, n'est-ce pas? Dans le texte que nous avons lu de 2 Corinthiens chapitre 4, Paul met en parallèle d'un côté les épreuves, les souffrances qui sont endurées dans son corps, dans sa chair mortelle, dans le vase, et puis de l'autre côté les ressources de Dieu qui permettent de supporter tout cela et d'en ressortir victorieux. On le voit dans les versets 8 et 9 que je relis. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Nous pouvons être pressés de toute manière, de toutes parts, comme disent d'autres traductions, en étant chrétiens persécutés ou d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne serons pas pour autant écrasés parce que Jésus-Christ a pris à la croix ce qui pouvait vraiment nous anéantir et nous écraser. Qu'est-ce que c'est ? C'est le péché. On le lit dans ce texte d'Ésaïe 53, verset 5. Il, en parlant du Messie, en parlant de Jésus, le Christ, il est transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté notre condamnation, il a porté nos fautes. Les épreuves que nous traversons, que les chrétiens persécutés peuvent traverser, sont parfois difficiles, même très dures. Ils risquent leur vie chaque jour. Certains voient leurs biens réduire à néant, des églises être détruites, incendiées, etc. L'apôtre Paul, dans ses lettres, rien que dans cette lettre-ci de 2 Corinthiens, il parle d'arrêt de mort, au chapitre 1, verset 9. Il dit dans la première aux Corinthiens, « Chaque jour, je risque la mort. » Ou encore en Romains 8, verset 36, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais c'est par une telle abnégation que l'apôtre Paul imitait Jésus. Il a suivi les pas de son maître, de son Seigneur, de notre Seigneur, Jésus. Paul paraissait faible de telle sorte que toute l'attention était centrée sur le message, le trésor qu'il contenait, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Si le vase avait eu la moindre valeur, la lumière de Dieu aurait été atténuée, voilée. Mais si le vase est fragilisé, alors la lumière de la vie en rayonne et brille d'autant. Dans beaucoup de pays, les autorités religieuses font tout pour détruire la foi chrétienne. Et c'est ce qui donne lieu à ces persécutions. Mais on le voit dans bien des cas, cela se retourne contre ces autorités elles-mêmes. Ces pressions, elles servent finalement à consolider et à renforcer l'Église au point même, comme je le disais en introduction, que l'Église grandit en Iran, en Inde et ailleurs. Contrairement à ce que nous pourrions penser, la persécution que subissent les chrétiens les font prendre encore plus conscience. Attention, je ne dis pas qu'il faut être persécuté pour vivre cela, mais ça leur fait prendre encore plus conscience de la réalité de Dieu, de ses promesses, de sa fidélité. Ça les fait encore plus grandir dans leur relation avec Dieu, dans leur foi, dans leur confiance, dans leur obéissance au Seigneur Jésus. Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? Parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Et puis, deuxièmement, parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. En tant que chrétiens, nous croyons que, comme Christ est ressuscité le premier, eh bien, nous aussi, nous ressusciterons. Nous le relisons dans les versets 13 et 14, qui montrent l'issue glorieuse de notre chemin. Et comme nous avons, je lis verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi, avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Notre résurrection est aussi certaine que celle de Jésus-Christ. Paul est en train de dire ici, « J'ai cru aux ressources de Dieu et c'est pourquoi j'ai délivré ce message sans réserve, quel qu'en soit le prix, même s'il en coûte, et il en coûte. » Et c'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés expérimentent chaque jour en témoignant courageusement de leur foi en Jésus, malgré les risques pour leur vie. Il y a donc la résurrection, et puis, comme le dit la suite dans le verset 16, il y a aussi la gloire future. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Paul établit ici un contraste entre le présent et l'avenir. Nos épreuves, malgré leur intensité, sont légères, sont courtes au regard de la gloire à venir, de la gloire qui nous attend. Il établit ce même contraste dans Romains chapitre 8, ce célèbre chapitre aussi qui parle de la souffrance, des souffrances qu'on peut traverser dans la vie présente. Romains 8, verset 18, par exemple. Cette gloire à venir, elle est infinie en quantité, elle est surabondante, elle est infinie en qualité. Il s'agit d'un poids insurpassable. Elle est infinie en durée, parce qu'elle est dite éternelle. Éternelle. Quel cœur que celui de l'apôtre Paul! Un cœur brisé, mais un cœur encouragé, fortifié, comblé par sa vision de la gloire future. Ses yeux étaient littéralement fixés sur la récompense à venir, comme on le lit dans cet autre verset que je cite dans Philippiens, chapitre 3, verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. » J'ai cité plusieurs fois la lettre de Paul aux Philippiens, une lettre que l'apôtre a écrite alors qu'il était en prison, la lettre où il parle tant de la joie. Il y a de la joie pour le chrétien, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser. Alors pour conclure, comme le dit l'apôtre, dans le verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Il est contenu dans notre vie, fragile, certes, mais nous sommes entre les mains de notre divin maître. Les épreuves peuvent réussir à fissurer notre vase, mais c'est précisément au travers de ces fissures que la lumière de la gloire de Christ atteint ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous sommes appelés à briller au sein de nos faiblesses humaines en comptant sur la puissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Nous sommes parfois accablés, mais l'apôtre Paul nous encourage à lever la tête pour fixer notre regard sur la récompense à venir, la résurrection et la gloire. Ce sont ces choses, ces réalités éternelles sur lesquelles nous portons notre regard, notre attention, notre espérance. Paul pouvait dire, en Actes 20, verset 24, « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, à savoir » rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelle simplicité ici dans le langage et aussi quelle vérité que celle que l'apôtre soulève. Alors que l'exemple de l'apôtre Paul, mais aussi celui de bon nombre de nos frères et sœurs qui sont persécutés, nous incite à toujours davantage de disponibilité et de consécration pour le service que le Seigneur veut nous confier. Amen.